Gloire à Dieu. Nous allons partager ce soir des choses importantes, vitales, essentielles pour que l'Église vive cette vie de victoire que Dieu a déjà tout préparée, tout accompli au calvaire pour cela. Je voudrais commencer avec une prophétie dans l'Ancien Testament où Dieu présente ce qu'il voudra. Ésaïe 56, c'est un verset très connu, peut-être un des plus connus de l'Ancien Testament, et pourtant. Ésaïe 56, verset 7, c'est une prophétie. Ésaïe 56, verset 7, je vous encourage peut-être même à noter les textes qu'on mettra ce soir ensemble pour que vous les méditiez chez vous. Ils risquent de vous aider à entrer dans cette vie de victoire dont certains ont tant besoin dans le peuple de Dieu. Ésaïe 56, verset 7, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ça a été écrit il y a très, très, très longtemps, des siècles et des siècles, avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et quand Jésus est venu sur la terre, il est entré dans le temple de l'Éternel et il a rappelé cette prophétie. Ma maison sera appelée une maison de prière pour que nous nous souvenions que Dieu n'a pas changé d'avis, que Dieu veut toujours que sa maison soit une maison de prière. De toujours, il était clair que Dieu voulait cela. Il a toujours travaillé pour que sa maison soit une maison de prière. Le diable, lui, a toujours travaillé pour que la maison de Dieu ne soit pas une réunion, une maison de prière, mais une maison de distraction, d'idole et tout ce que vous voudrez. Et le problème, il est là. Le diable, lui, quand il a chuté, avait dit « Je m'élèverai, je m'assirai sur le trône de Dieu ». Vous vous rappelez quand le diable a chuté? Et il n'a pas changé, parce que dans les prophéties de l'apôtre Paul, il est dit que le diable ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église. Des choses terribles se passeront et le diable, lui aussi, il est déterminé à entrer dans l'Église, à détruire l'Église. Et les chrétiens, nous devrions, nous, réaliser que nous avons reçu toute la puissance dont nous avons besoin pour contrecarrer les plans de l'ennemi et pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Lorsqu'un homme entre dans le royaume de Dieu, il doit devenir un intercesseur. Les 9 jeunes qui vont prendre le baptême dimanche doivent savoir qu'en entrant dans le royaume de Dieu, ils deviennent des intercesseurs. Lorsqu'un chrétien rentre dans le royaume de Dieu et qu'il ne prie pas, eh bien, c'est quelque chose qu'il n'a pas compris. Ou alors il est passé à côté de quelque chose de sérieux. Ou alors il n'a pas été éclairé. Ou alors il a complètement zappé l'appel de Dieu. Parce qu'il y a une vocation que tous les chrétiens deviennent des intercesseurs. La prière, ce n'est pas quelque chose qui dépend des émotions, des sentiments. Moi, j'ai envie, je n'ai pas envie. Même des fois, des frères me disent « Ah, mon ange, vous savez, monsieur Gros, je ne prie que quand j'ai envie. » Voilà, la chair. C'est ça, la chair. La chair, elle fait les choses quand elle a envie. On ne prie pas quand on a envie. La Bible nous demande de prier sans cesse, de prier tous les jours, de persévérer dans la prière, parce qu'il y a un combat. Et ne vous inquiétez pas, vous qui m'avez dit « je ne veux pas devenir un légaliste », vous n'en prenez pas le chemin. En parlant comme ça, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas de devenir des légalistes quand vous prierez que quand vous en avez envie. Mais croyez-moi, mes frères, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui n'a pas compris. Et je voudrais vous convaincre ce soir, ou plutôt que le Saint-Esprit puisse vous convaincre de l'importance de la prière sous toutes ses formes. Pourquoi Dieu recherche des adorateurs en esprit, en vérité? Parce que lorsque quelqu'un découvre la grâce de Dieu, il devient un adorateur. Un chrétien qui n'adore pas est également un chrétien qui n'a pas compris. Par exemple, la puissance de Dieu, on l'a vu dimanche, rien n'est impossible à Dieu. Ça provoque un esprit de reconnaissance, c'est obligé. Vous ne conjuguez pas le verbe adorer, comme je l'ai dit dimanche, vous êtes un adorateur, vous devenez un adorateur, vous êtes quelqu'un qui est prosterné devant la grandeur du Seigneur. C'est quoi la prière? Il y a des chrétiens qui sont incapables d'expliquer ce qu'est la prière. C'est vrai que ça représente beaucoup de choses. La prière d'accompagnement. Quand un ancien, un pasteur termine la réunion et qui dit « Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous », c'est une prière, ce n'est pas une formule. C'est une vraie prière, ça s'appelle une prière d'accompagnement. Quand on demande à Dieu, quand on demande à Dieu quelque chose, c'est une prière. Quand on présente à Dieu quelque chose, c'est une prière. Quand on glorifie Dieu pour ce qu'il fait, c'est une prière. Quand on le loue pour son amour ou pour son salut, c'est une prière. Quand on le rend grâce à midi pour le, ou le soir ou le matin pour le repas, c'est une prière. Est-ce que les actions de grâce, c'est une prière? Oui. Lorsqu'on l'invoque parce qu'on a un fardeau, parce qu'on a, on a un gros fardeau sur le corps, on invoque Dieu de tout son cœur. Invoque-moi, c'est une prière. Lorsqu'on le supplie pour le salut de nos enfants, pour le salut des perdus, c'est également une prière. Quand un pécheur rentre et demande pardon à Dieu pour ses péchés, c'est une prière. Comme je le disais tout à l'heure avant la réunion de prière, justement, cette personne qui était affolée parce qu'une prostituée avait prié dans l'église. Monsieur Go, est-ce qu'une prostituée a le droit de prier dans l'église? Et bien sûr qu'un pécheur a le droit de demander pardon à Dieu pour ses péchés. Lorsque on bénit le Seigneur pour une grâce, c'est une prière. Lorsque les fils prodigues reviennent et demandent pardon, ce n'est pas des prières? C'est des prières. L'adoration silencieuse, est-ce que ça vous arrive de rester dans le silence et d'adorer Dieu? Est-ce que ça, c'est une prière? C'est une prière. L'adoration silencieuse est une prière. La contemplation devant le grand Dieu de l'univers, quand vous vous mettez à réfléchir à l'immensité de Dieu, à la grandeur de Dieu, quand vous contemplez la grandeur de Dieu, c'est une prière. Lorsque vous faites des requêtes, comment la Bible appelle, des pétitions. Le mot requête dans Timothée, c'est une pétition. Quand on prie tous les jours, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, ce sont comme des pétitions, l'intercession, etc., etc., etc. La prière, ça revêt beaucoup d'aspects. Ce n'est pas que parler à Dieu. Quand nous demandons la guérison pour un malade, on prie. Tout à l'heure, peut-être on va imposer les mains à quelqu'un qui a besoin d'une victoire, d'une délivrance. Ça fait partie de la prière. Et Dieu veut. Écoutez bien, mes frères et sœurs, parce qu'on perd du temps, on perd beaucoup de temps. Ça ne vient pas que de vous, ça vient de nous qui n'avons pas été assez clairs avec les choses spirituelles. Quand nous comprenons la volonté de Dieu, nous comprenons une chose, Dieu veut entendre dans sa maison toutes sortes de prières. Quand Paul dit à Timothée, je veux que les hommes prient, ça exprime la volonté de Dieu. Tous les hommes devraient prier, toutes les femmes devraient prier, tous les chrétiens devraient prier et aimer la prière, même si c'est un combat, même si ce n'est pas facile toujours. Dieu veut des prières ferventes. Le diable a toujours tout fait pour que la maison de Dieu ne soit pas une maison de prière. Vous avez vu, à l'inauguration du temple, quand Ésaïe a fait cette prophétie, la maison de Dieu, c'était le temple de Jérusalem. Et Dieu avait dit, le jour de la dédicace, quand Salomon a prié, Salomon avait dit, écoute Seigneur, voilà, quand on priera, quand quelqu'un priera, quand on aura péché, quand un blasphémateur viendra, quand il priera, exauce-le du ciel. Et Dieu avait dit, je suis d'accord. Quand vous viendrez, priez de tout votre cœur, je vous exaucerai. Là, il y aura toujours mes yeux et il y aura toujours mon cœur. C'était pas beau? Vous avez vu ce qu'on a fait du temple de Dieu? Vous avez lu dans l'Ancien Testament ce qu'on a fait du temple du Seigneur? Que Dieu a tellement été outré de ce qui s'est passé qu'il a détruit le temple de Dieu. Et on pourrait prendre des chapitres entiers de l'Ancien Testament pour voir ce qui s'est passé. Même du temps de Jésus, la maison du Seigneur était devenue une caverne de voleurs parce qu'on négociait, c'était pour lui, mais c'était devenu une caverne de voleurs parce que le diable a toujours tout fait pour que l'Église ne prie pas, pour que les chrétiens soient tièdes, pour que les chrétiens fassent des prières, mais quand ils prient, ils n'y croient pas. Je prie, monsieur Gauche, je prie, mais je ne sais pas si Dieu m'entend. Voilà, et bien le diable il a gagné. Ce n'est pas que l'Église n'a pas la force, je vais en parler tout à l'heure. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné toutes les armes, non. C'est que les chrétiens n'ont pas cherché suffisamment la volonté de Dieu pour comprendre ce qu'était la prière. Et le diable, il fait tout pour que les chrétiens soient dans l'ignorance. Et Dieu a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et quand un chrétien commence à lire sa Bible pour la lire, quand un chrétien commence à aller à l'église pour aller à l'église, il entre dans un processus d'ignorance. Je viens de vous résumer un petit peu la volonté de Dieu et quelques formes de prière. Mais il y a une prière qui est présentée dans Matthieu au chapitre 18, qui est présentée dans un contexte bien particulier et que je voudrais vous présenter ce soir. Matthieu chapitre 18, c'est un texte, ce sont des textes qu'on connaît très bien, mais peut-être on n'a pas bien compris le contexte dans lequel ces choses ont été enseignées et qu'est-ce que Jésus veut nous dire. Nous allons voir ces choses ce soir. Je voudrais que vous écoutiez avec beaucoup de sérieux, en tous les cas, tous ceux qui ont à cœur de voir l'œuvre de Dieu avancer, cette prédication, elle est pour vous. On aura tout à l'heure un moment peut-être d'intercession et d'imposition des mains pour que ceux qui se sentent concernés par ce que vous allez entendre soient véritablement libérés. Parce que je crois que Dieu délivre les pécheurs, mais des chrétiens ont besoin d'être délivrés de certains pièges dans lesquels ils sont tombés. Matthieu 18, c'est dans un contexte de la discipline. On va lire à partir du verset 15 parce que tout ça c'est ensemble. Et je veux partir du verset 15 parce que tout ça c'est dit par Jésus et c'est très sérieux que cette sorte de prière-là peut être vécue quand l'Église vit dans la discipline. Attention, ce sont des choses très profondes. Si vous avez fait les études avec M. Ollé, vous avez vu qu'on ne peut pas prendre l'enseignement en dehors du contexte. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'aimer. Mais il faut qu'il sache qu'un chrétien qui vit de nouveau dans le péché, eh bien, c'est comme un païen. Il faut de nouveau le regagner à la croix. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Quelle grâce, quelle promesse. C'est pas une promesse ça? Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça vous touche pas? Moi ce verset, vous l'avez entendu 2000 fois, vous l'avez lu 150 fois. Moi plus je le lis, plus je l'entends, plus ça me remplit de reconnaissance, de cette sollicitude du Seigneur. Donc le Seigneur nous parle ici d'une prière qui lie et une prière qui délie. Le ciel écoute les prières qui sont prononcées sur la terre, on le voit, tout ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel, tout ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Là il ne s'agit pas de demander quelque chose, mais de délier ou de lier. Ça s'appelle la prière d'autorité. Comme je vous disais tout à l'heure, que quand vous dites à quelqu'un que Dieu vous bénisse, ça s'appelle une prière d'accompagnement. Ça, c'est la prière d'autorité. Alors, est-ce qu'il s'agit de donner des ordres à Dieu, ce qu'on a déjà entendu, et ce qui ne me plaît pas beaucoup, est-ce qu'on a le droit de donner des ordres à Dieu? Moi, je ne crois pas. Comment oserions-nous commander Dieu? Mais quand même, dans ce texte, nous voyons que Dieu nous enseigne à prier avec autorité, une fois que nous avons connaissance de sa volonté. Parce qu'il y a des gens qui demandent à Dieu n'importe quoi, qui interdisent ceci, qui interdisent cela. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Qui vivent dans le péché et qui ont été enseignés n'importe comment, qui ont amené le scandale dans l'Église plutôt que d'amener la bénédiction du Seigneur. Il y a peut-être un texte, plusieurs, on va en voir quelques-uns, qui peuvent nous servir d'illustration. Dans Exode au chapitre 14, du verset 13 au verset 22, nous voyons que le peuple de Dieu est coincé entre la mer Rouge et entre le désert. D'un côté, il y a le peuple de Dieu qui murmure, qui lui ne pourra pas entendre la voix de Dieu, c'est clair. Quand vous si vous faites partie des gens qui murmuraient, qui vous plaignaient, qui râlaient tout le temps, ne vous inquiétez pas, vous n'entendrez pas grand-chose de la part du Seigneur. Dans Exode 14, nous voyons par contre Moïse qui lui aussi est affligé, mais qui prie. Et Dieu va lui faire connaître sa volonté. C'est important pour vous de connaître la volonté de Dieu? Alors, on ne va pas tout lire, mais voilà, le peuple est coincé. Vous le savez, vous l'avez lu, c'est une des plus grandes histoires du monde entier. Voilà, la mer Rouge d'un côté, le peuple de Pharaon derrière, et le désert. Et regardez, verset 13, « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien !» Pendant qu'eux se plaignaient, lui cherchait Dieu. Et il avait la réponse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens se plaignent et finissent par être gradés. Ce n'est pas plus compliqué. Et il y a ceux qui cherchent Dieu, qui eux reçoivent la parole du Seigneur. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Alléluia. Verset 26, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Vous lirez le texte en entier, et vous verrez que Dieu est en train d'enseigner à Moïse ce qu'est l'autorité. Parce que le bâton que Dieu avait donné à Moïse représentait l'autorité. Et Dieu dit à Moïse, ne crie pas, qu'est-ce que c'est ces gens qui crient, qui murmurent, ça ne sert à rien. Donne des ordres, étends ton bâton et j'agirai. Alléluia. Et il y a des choses qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, dans le combat spirituel. Pourquoi il n'y a plus de réunion de prière? Pourquoi les gens ne viennent même pas prier? Pourquoi les gens n'intercèdent plus dans les églises? Pourquoi il n'y a pas cette ferveur? Parce que les gens n'ont pas compris. Ils ont été aveuglés et énormément de dommages sont dans l'église parce que l'église ne prie pas. L'église doit prier. Dieu était assez grand pour donner plusieurs noms à son église. Eh bien, il n'en a donné qu'un. Ma maison sera une maison de prière. Et je vous le dis, le diable fera tout pour que vous ne priez pas, pour que vous ne priez pas avec votre mari. Il fera tout parce qu'il sait ce qu'il peut se passer lorsque deux personnes s'accordent, car deux personnes ensemble représentent l'Église. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Et il faut bien comprendre cela. Lorsque Jésus est mort, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est monté au ciel, il nous a donné la victoire. Vous entendez ? Il a donné la victoire à l'Église. Nous avons une position spirituelle à découvrir, à entretenir. Venez avec moi dans Éphésiens au chapitre 1er. Parce qu'avant de vous expliquer ce que ça veut dire lier et délier, il faut d'abord que vous compreniez quelle est votre position en Christ. Beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens. D'ailleurs, il y en a même qui disent, « Mais moi, je ne vois pas tellement la différence entre un chrétien et un païen. » C'est la preuve. Mais non, mais c'est vrai, je l'ai entendu. C'est pour vous dire la preuve de l'aveuglement et de l'ignorance dans lequel se trouve ce chrétien. Car moi, je peux vous dire qu'il y a plus de différence entre un chrétien et un païen qu'il y en a entre le paradis et l'enfer. Croyez-moi. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, tout le premier chapitre nous parle de notre position en Christ. Mais on va lire les versets qui nous intéressent. Versets 20 et 22. Il faudrait lire les versets qui précèdent, mais on n'aura pas le temps. Il l'a déployé en Christ, son infinie puissance. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir, donc il parlait de Jésus, à sa droite dans les lieux célestes. Alors regardez bien, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc Jésus-Christ est assis au-dessus de tout. Il a autorité sur tout. Regardez bien la suite. Il a tout mis sous ses pieds. Qui c'est les pieds ? Les pieds, c'est qui dans l'Église ? C'est qui les pieds ? Puisque Jésus est la tête. Mais voilà. Les pieds, c'est le corps. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité. Quand il est mort, il a remporté la victoire. Quand il est monté au ciel, il a prouvé sa victoire et il a ouvert le chemin pour que l'Église, à son tour, puisse être assise dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'au chapitre 2 et au verset 5, 6, qu'est-ce qu'il est dit ? Il nous a ressuscités ensemble. Aux yeux de Dieu, on est déjà ressuscité. Nous, on ne le voit pas ça, mais aux yeux de Dieu, on est déjà ressuscité. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est assis et nous devrions spirituellement, à cause de notre position, être assis avec Christ dans les lieux célestes. Dans quel but ? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà, Est-ce que nous comprenons notre position? Christ est au-dessus de tout. Vous savez que quand l'homme a péché, tout a été donné à Satan. Vous vous rappelez quand Satan avait dit à Jésus, « Si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai toutes ces puissances, tous les royaumes de la terre, parce qu'ils m'ont été donnés. » Et quand Jésus est mort, il est ressuscité et il est remonté au ciel, il a tout retrouvé. Il a tout reconquis et il veut nous le donner. Pour cela, il faut que nous réalisions ce qu'il a accompli et quelle est notre position. Nous ne nous rendons pas compte qu'avant de faire quoi que ce soit, nous devrions réaliser quelle est notre position en Christ. Nous devrions être assis dans les lieux célestes. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par Washmani qui s'appelle « Être assis, marcher et tenir ferme ». C'est un petit livre, je pense qu'il y a à la bibliothèque. C'est un tout petit bouquin. Il explique qu'avant de tenir ferme et avant de marcher, il faut d'abord être assis. Et c'est très, très, très bien expliqué. D'ailleurs, ce que je vous dis, je l'ai tiré de là-dedans, parce qu'il exprime très, très bien qu'un chrétien, avant de vivre dans la victoire, il doit être assis à côté de celui qui est dans la victoire totale. Marcher dans l'esprit n'est possible que si nous réalisons quelle est notre position en Christ. Dieu veut que nous ayons une vie en abondance. Est-ce que l'Église pourrait régner sur la terre? Oui. Eh oui, elle pourrait régner. L'Église pourrait régner dans tous les villages, dans toutes les villes, dans toutes les agglomérations. L'Église pourrait être la lumière du monde. Tous les ennemis spirituels ont été vaincus. Vous l'avez lu avec moi. Il est au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés. Au calvaire, Jésus a dit les trois mots les plus importants qui ont jamais été prononcés, tout est accompli. Nous, quand on a lu ça pour la première fois, on n'a pas trop pigé. Mais ça veut dire que tout est réglé. Tout, absolument tout, est réglé. À condition que l'Église marche dans l'obéissance, dans la vie de l'Esprit, et qu'elle arrive à cette attitude de victoire, d'abondance, et je peux vous dire que nous verrons des choses se passer, quand nous sortirons de notre tiédeur, de notre paresse, de notre désobéissance, et que nous nous mettrons à faire à chacun ce que le Seigneur nous demande. Il faut bien étudier Éphésiens. Je ne sais pas si vous avez étudié Éphésiens, c'est un livre qui parle vraiment de l'Église. Les trois premiers chapitres nous parlent de notre position, les trois derniers chapitres nous parlent de notre comportement. Le premier chapitre nous parle de notre position en Christ, le deuxième chapitre parle de la position de l'Église. Et le chapitre 6 nous montre ce que l'Église doit vivre, c'est-à-dire combattre le bon combat de la foi. Il y a un combat, c'est pour ça qu'il faut prier. Il y a un combat. Ce combat, il s'achève quand on rend l'âme. Peut-être que vous allez vous dire, oh, moi, quand j'arriverai à la retraite, peut-être que ça ira mieux. Ou peut-être que j'aurai moins de combats. J'ai une mauvaise nouvelle. Le combat, il durera toute notre vie. C'est comme ça. Dieu l'a voulu. Mais mes frères et sœurs, il faut comprendre. Il y a des gens qui prient. Vous savez, quand je vois quelqu'un qui est baptisé et qui me dit, Monsieur Gaud, je ne sais pas si Dieu entend mes prières. Vous avouerez qu'on est mal parti. Imaginez-vous un soldat qui rentre à l'armée et qui vous dit, voilà, je ne sais pas si je suis fait pour l'armée, j'ai peur de me battre, je n'aime pas les armes. Ah, d'accord, et tu t'es engagé dans l'armée? Oui, mais j'aime pas les fusils, voilà, moi je préfère les hamacs. Ah, je comprends, oui, mais c'est... Non, mais je pense qu'il serait vite recalé quand même. Et quand on entre dans l'église, on prend de suite cette notion qu'il y a un... Je ne sais pas, quand vous vous êtes converti, vous avez vu de suite, vu le combat que vous avez mené, pour passer de la lumière, des ténèbres à la lumière, vous savez très bien qu'il y a un combat, oui ou non? Tous ceux qui se convertissent savent que pour passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, il y a un combat. On ne change pas d'une religion, j'étais catholique, je deviens évangélique, tiens, j'étais là avec des idoles, maintenant c'est dans une église, il y a de beaux cantiques. Ce n'est pas ça. On passe vraiment des ténèbres à la lumière. Et un chrétien, il comprend qu'il doit prier en tout temps. Pourquoi? Parce que c'est écrit « prier en tout temps ». Il n'est pas dit « prier quand vous êtes de bon poil ». Il est « prier en tout temps ». Ça veut dire quand tout va bien, quand tout va mal, quand je suis malade, quand je suis bien, quand je suis béni, ou quand je le suis moins, quand le chemin monte, quand le chemin descend, ben je dois prier parce qu'il y a un combat. Prier en tout temps. Ben on est dans Éphésiens. Regardez Éphésiens chapitre 6. C'est la conclusion d'une grande exhortation prier, faites, voyez, Éphésiens 6, 18, il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. Le diable, il fera tout pour que vous ne priez pas. Donc, vous savez à qui vous obéissez. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, il ne faut pas prier que pour soi, il faut prier pour les autres. L'apôtre Paul, il est en prison. Il dit pas prier pour moi, pour que je sorte de prison. Priez pour moi, pour que la vérité soit toujours prêchée. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez que l'Église devra redevenir une maison de prière fervente, toutes les prières que j'ai résumées tout à l'heure, si nous voulons voir le diable fuir, si nous voulons voir la gloire de Dieu. La prière, c'est un combat spirituel. La prière, c'est parfois un temps de rafraîchissement. Est-ce que ça vous arrive parfois que dans la prière, vous vous rafraîchissez? Bon, c'est bien des temps de rafraîchissement. Mais la prière, c'est aussi un combat. Des fois, la prière, c'est pas facile. Vous priez, vous pensez à Pierre, à Paul. Ah, il faut que j'éteigne l'eau, il faut que j'oublie pas le four. Oui ou non? C'est pas vrai? Franchement, quand je prie, je prends un papier et un crayon. Comme ça, je note les trucs, je les ferai après ou le lendemain. C'est bizarre, comme dès qu'on prie, notre esprit est envahi. C'est pas vrai? Surtout les 10 premières minutes. Il y a l'impression des fois que c'est comme un mur qu'il faut défoncer pour après rentrer. Alors si vous priez que 5 ou 10 minutes, c'est clair que vous n'avez pas le temps de défoncer le mur. C'est vrai. Et il y en a un qui le sait. C'est un combat. Ah bien sûr, le diable va vous dire, mais qu'est-ce que tu es un guignol. Regarde, tu pries, tu penses à la voiture à réparer, tu pries, tu penses à la lettre, aux impôts qu'il te faut aller, ça c'est sûr, il faut y penser. Et c'est pas la peine que tu pries, t'es qu'un guignol. Parce que le diable, il sait nous parler. Vous le savez? Et il sait quel vocabulaire utiliser. Mais il y a un combat, mes frères et sœurs. Et nous sommes à la porte de l'enlèvement de l'Église. Ça vaudrait quand même la peine que nous terminions la course de la meilleure façon qui soit. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs? Priez en tout temps. Et je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont légers et qui sont tout le temps en train de chercher des excuses. Et moi, je n'ai pas le temps. Et moi, j'ai mon boulot. Je me souviens de ce frère qui riait. Moi, ça ne m'a pas fait rire. Qui me disait, Monsieur Gau, vivement que j'arrive à la retraite. Quand j'arriverai à la retraite, je sais que j'aurai du temps pour servir Dieu. Il a pris la retraite. J'aurai du temps pour servir Dieu, pour prier, pour venir à l'église. Et puis, je l'ai vu après qu'il a pris la retraite. Alors, il me dit, vous ne le croirez pas. J'ai moins de temps qu'avant, Monsieur Gau. Moi, ça ne m'a pas fait rire, parce que s'il savait vraiment de qui il était la marionnette. Parce que quand on a 8 heures de plus, entre guillemets, par jour, et qu'on n'arrive pas à prier, on n'est pas entre les mains du Seigneur. Vous allez dire que je suis sévère, mais quand on a, et ne pas avoir réussi à détecter le piège, quand même, quand on a 8 heures de plus par jour, et qu'on attend la retraite pour passer du temps dans la prière, et que j'ai encore plus de travail qu'avant. J'ai dit, mais moi, ça ne me fait pas rire, je lui ai dit. Qu'on soit à la retraite ou pas, quel que soit notre âge, à partir du moment où vous avez un jour de conversion, vous êtes entré dans l'armée du Seigneur. Et vous devez vous lever pour combattre. Si vous tenez ferme dans cette position, vous pourrez arriver, nous pourrons arriver à la prière d'autorité. La première question qu'il faut poser, occupons-nous cette position en Christ? Sommes-nous véritablement assis dans les lieux célestes, dans une position ferme? Est-ce que nous savons que nous sommes rachetés? Ou est-ce que vous êtes tout le temps en train de remettre en question votre salut? Quand vous avez des chrétiens de 10 ans de conversion, Monsieur Gauche, je ne sais pas si je suis sauvé. Comment ça? Mais je ne le sens pas. Vous voyez, c'est toutes ces émotions, ces sentiments. Jésus, il a dit par l'apôtre Jean, nous savons que si nous sommes passés de la mort à la vie. Oui. Le problème, c'est qu'il faut avancer avec des convictions. Regardez, ce problème, il existait déjà du temps de l'apôtre Jean. C'est bien que vous le lisiez, parce que ça vous fera sortir des émotions pour vous faire entrer dans le domaine des convictions. Regardez dans 1 Jean. C'est bien que je vous le dise. Il faut que vous le compreniez, mes frères et sœurs. Il y a trop de chrétiens charnels, émotionnels, sensuels. Ils aiment les émotions, ils aiment sentir. Mais regardez, déjà du temps de l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 13, il devait y avoir ce problème avec les émotions. des chrétiens devaient dire, ah, mais tu le sens le salut? Eh bien, moi, oui. D'autres, mais moi, non. Et regardez ce que Jean a dit. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses. Pourquoi alors? Afin que vous sentiez. Qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 15. Nous, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose. Voyez verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. On voit bien que l'apôtre Jean a ce souci d'amener les gens à croire les choses et non pas à les sentir. Et c'est ce qui fait que les chrétiens sont devenus sentimentaux à la place de devenir spirituels. La première chose qu'un chrétien doit comprendre, c'est qu'il doit être un intercesseur et qu'il doit vivre dans une position de victoire. Que vous soyez dans votre voiture, dans votre lit, que vous soyez en vacances, que vous soyez au boulot, que vous soyez à l'église, dans la rue, n'importe où, vous devez être spirituellement dans une position de victoire. Et le diable fait tout pour nous empêcher de découvrir déjà cette position. Il veut, lui, nous faire vivre dans la défaite. Il y a des chrétiens, ils sont toujours dans la défaite. Alors, on n'a pas à les juger, que Dieu nous garde de les mépriser, parce qu'on va s'irriter, et si on s'irrite, on ne va pas faire mieux. Parce que si on s'irrite, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas vrai? Et il faut supporter les faibles, bon. Mais ça ne règle rien du tout. Ça nous aide à ne pas nous irriter, mais ça ne fait pas avancer les choses. La prière d'autorité, il faut la découvrir. C'est bien joli de lire n'importe quoi sur la prière d'autorité, mais il faut d'abord comprendre que c'est une question de position spirituelle. Le deuxième texte qu'on peut prendre, c'est dans Marc au chapitre 11, où le Seigneur explique cette prière d'autorité. J'en viens à lier et délier, mais d'abord il faut comprendre la position, parce que sinon on va entendre des bêtises dans l'église après. Marc chapitre 11, le Seigneur l'explique. Lorsqu'il a séché le figuier, qu'est-ce qu'il dit? Il prend la parole, bon, on ne va pas lire le contexte, que ce qui nous intéresse. Marc 11, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. » Alors, il n'est pas dit, « Si quelqu'un demande à Dieu de déplacer. » Vous avez vu. « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi, donc, coordination. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Là, on ne parle pas à Dieu, on parle directement à la montagne. Alors, bien sûr que pour cela, il faut avoir une foi ferme. Jésus dit à Pierre, « Ayez foi en Dieu. » Il vous faut croire que la montagne, c'est Dieu qui va la déplacer de toute façon. Parce que si Dieu permet qu'il y ait des montagnes, parce que Dieu permet des montagnes, écoutez, c'est comme ça, mais il ne veut pas qu'elles s'installent, les montagnes. Dieu peut permettre des montagnes qui représentent les problèmes les plus gros qu'on traverse, mais il ne faut pas qu'elles s'y installent. Il faut que nous apprenions à les déplacer, tout cela dans une position d'autorité et de véritable foi. C'est pour cela, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. J'aurais pu passer directement de lier et délier, mais ça aurait mis la confusion dans le cœur de plusieurs qui ont été mal enseignés. Avant de faire quoi que ce soit dans le domaine spirituel, vous devez savoir si c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Il ne faut pas faire n'importe quoi, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Ils prient pour n'importe quoi. Ils demandent à Dieu les numéros du loto. Je peux vous dire, non mais ne riez pas. Je peux vous dire que moi je l'ai déjà entendu ça. Ça quand même, ça craint un peu quand même. Regardez un texte, peut-être vous y avez jamais fait attention. Quand Pierre a ressuscité Dorcas, qu'est-ce qu'il a fait juste avant? On le lit? Acte 9, regardez avec moi. C'est important. Regardez, c'est écrit, ça pourrait ne pas être écrit, mais c'est écrit. Cette petite précision nous enseigne qu'après notre position d'autorité, quand nous savons que nous sommes assis dans les lieux célestes par une obéissance et une foi vivante, nous devons comprendre quelque chose. Regardez. Bon, vous connaissez cette femme qui était appréciée de beaucoup, beaucoup de gens et bien sûr des chrétiens. Verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Regardez bien. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, et c'est ça que je veux que vous reteniez, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit et c'est super. Oui ou non? Il rentre dans la chambre, il fait sortir tout le monde, le cercueil est là, ou le lit est là, il se met à genoux, il prie, et Dieu lui dit oui. Oui ou non? Et là, il se tourne et il la ressuscite. Parce qu'il avait reçu par le Saint-Esprit la volonté de Dieu. Il n'a pas ressuscité Dorcas par pure fantaisie, parce que lui le voulait, ou parce que c'est les amis de cette femme le voulaient. Il a ressuscité Dorcas parce que cet homme rempli du Saint-Esprit a reçu la révélation que c'était la volonté de Dieu. Et l'importance de se tenir devant Dieu jusqu'à ce que Dieu nous donne son feu vert, ou sa volonté. Mes frères et sœurs, la prière fervente du juste, c'est ça. C'est pour ça qu'il est dit que la prière fervente du juste est efficace. Et il n'y a que la prière qui peut déclencher la puissance de Dieu. Beaucoup de revivalistes, dont des hommes qu'on peut croire, ont dit, si vous voulez savoir quelle est la piété d'une église, n'allez pas le dimanche matin au culte, allez le mardi soir ou le mercredi à la réunion de prière. Et vous saurez quelle est la piété de l'église. Et quand dans une église de 100 membres, vous avez 10 personnes à la réunion de prière, vous avez une idée de la piété de l'église. Oui ou non? Quand dans une église de 400 membres comme nous, vous avez le nombre qu'il y a à 7h30, vous avez quand même une idée de la ferveur de l'église. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est une question de droiture devant Dieu. Oui ou non? C'est révélateur, mes frères et sœurs. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les plus grands revivalistes de l'histoire qui ont dit « Vous connaissez la piété d'une église à la réunion de prière de la semaine ». Et quand même, il y a de quoi réfléchir. Donc, la prière est capitale. Jésus aurait pu dire, ma maison sera appelée une maison de prédication. Ça serait correct, oui ou non? Eh bien non, il a dit, ma maison sera une maison de prière. Parce que peut-être que s'il n'y a pas de prière, la prédication, elle ne sert pas à grand-chose. Les chrétiens doivent absolument, s'ils ont compris leur position, devenir des vainqueurs et faire descendre la puissance de Dieu sur la terre. Parce qu'il n'y a qu'un trône dans le ciel, c'est le trône de Dieu et Dieu règne. Et si les chrétiens sont assis à côté de Christ sur le trône, eh bien cette autorité, Dieu nous la fera partager. Vous aspirez à cela? Est-ce que vous croyez que Dieu est plus intéressé que nous? Mais oui, mes frères et sœurs, dans l'église, il doit y avoir des vainqueurs. Je vous disais dimanche que j'ai rencontré une fille au séminaire à Gap qui me disait, mais moi, monsieur Godin, mon église, tout le monde est malade spirituellement. Tous les chrétiens sont malades. Les gens prient, non, il n'y a plus de réunion de prière. Et voilà ce qui attend le corps de Christ si les églises ne réagissent pas, ne rebondissent pas, si les églises ne combattent pas. Moi, j'ai été marqué il y a quelques années par une prédication d'un ancien ici qui avait prêché sur le psaume 78. On peut le lire dans le psaume 78. Ça m'avait marqué, moi, cette prédication. Et je ne sais pas si on a beaucoup avancé depuis. Dieu fait un reproche sévère au peuple d'Israël. Et voilà ce qu'il leur dit. Moi, ça m'avait marqué, je crois que ça fait 10 ans, cette prédication. Et j'y pense presque tous les jours à ce verset. Psaume 78, verset 8. Psaume 78, verset 8. « Afin qu'ils ne soient pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu, les fils d'Éphraïm, armés et tirants de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. » Ça fait pitié. C'est ce qui s'est passé parmi le peuple d'Israël. Ils étaient armés, ils maîtrisaient la guerre et tout ce que vous voulez. Et quand il y a eu le combat, ils ont tourné le dos. Et c'est l'image de l'Église qui ne prie pas, elle est armée parce qu'elle a reçu toute la puissance. Et comme je l'ai dit, bien ou moins bien dit, si le diable gagne, ce n'est pas parce que l'Église n'a pas reçu les armes, c'est parce que l'Église n'utilise pas les armes. Parce que l'Église est plus forte que Satan, croyez-moi, à condition qu'elle combatte le bon combat de la foi. Et si nous nous mettions à prier avec ferveur dans l'obéissance, en réalisant la position que nous avons à Jésus-Christ dans nos maisons, le matin avant de partir au travail, si nous nous mettions à genoux et que nous commencions à réaliser notre position et à vivre dans la justice, la sainteté et l'obéissance, nous arriverions à voir cette autorité dans l'Église, à voir la puissance de Dieu se manifester. Jésus le veut. C'est ce que Dieu veut. Nous pouvons lutter contre les esprits méchants. Nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus. L'Église doit recevoir l'autorité qu'elle reçoit lorsqu'elle est assise avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Beaucoup de problèmes seraient réglés, croyez-moi, si nous comprenions ces choses. Alors la prière d'autorité, vous l'avez vu, elle se divise en deux parties. D'une part, il y a l'action de lier et d'autre part, il y a l'action de délier, c'est ce que Jésus dit, vous l'avez lu avec moi tout à l'heure. Donc ainsi, il faut comprendre ces choses. Dieu lie parce que l'Église a lié. Et Dieu délie parce que l'Église a délié. Vous êtes d'accord avec moi, vous le comprenez comme ça. Tout cela, je le répète, parce que je sais très bien que certains vont interpréter ça de travers. Peut-être pas vous, mais ceux qui écoutent, parfois les gens, ils vont interpréter de travers. Je le répète, à condition que l'Église vive dans l'obéissance pour recevoir l'autorité. La prière qui lie. Alors, je crois qu'il y a bien des choses qui doivent être liées, même dans l'Église. Ce n'est pas pour rien que Dieu a enseigné la prière d'autorité dans le cadre de la discipline dans l'Église. Parce qu'à cause du péché qu'on ne règle pas dans les Églises, on ouvre la porte à Satan. J'ai fait une visite ce matin d'une chrétienne qui vient d'arriver à Toulouse, qui vient d'un département outre-mer, et ça a été vérifié par une sœur tout à l'heure. Trois pasteurs sont en prison à cause de choses archi-graves. Et plusieurs viennent divorcer dans la même ville. Ça, il y a de quoi pleurer, mes frères et sœurs. Alors, est-ce que c'est le diable qui est fort ou est-ce que c'est l'Église qui a tourné le dos? C'est l'Église qui a tourné le dos. Et il y a des choses qui doivent être liées. Vous savez, dans nos réunions, on le fait ici, on le fait discrètement, on le fait depuis 14 ans, on le fait par la grâce de Dieu parce qu'avec les anciens, on a la même façon de voir, mais il y a des personnes qui troublent les réunions. Il y a des personnes qui troublent les réunions. Je peux vous dire que moi, j'étais dans une église dernièrement. J'ai été voir le pasteur, j'ai dit, mais vous le savez que cette femme, elle trouble la réunion? Oui. Et pourquoi vous ne la mettez pas en discipline? Eh bien, je ne sais pas. Et voilà. Il y a des personnes qui troublent les réunions et qui ont le pouvoir d'enlever la paix dans les églises. Des personnes qui dérangent dans les églises. Vous le savez? On le sait des fois, d'ailleurs, moi je le sais. Moi, quand quelqu'un dérange, en principe, il y a toujours un ancien qui vient me dire, monsieur Gault, vous n'avez pas été dérangé? On le sait. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui dérangent par leurs pleurs. Parce qu'il y a des pleurs, des fois, qui sont des pleurs spontanées. Quelqu'un peut pleurer parce qu'il pleure devant Dieu. Est-ce qu'on a le droit de pleurer? Mais il y a des gens, quand ils pleurent, ils dérangent la réunion. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire la différence. En tous les cas, nous, c'est notre rôle de faire la différence. On a déjà observé ça. Et tout ça, ça ne vient pas de Dieu, croyez-moi. Alors que parce que comme ça pleure, on a l'impression que c'est très, très profond. Souvent, ça ne sert qu'à troubler la réunion. Et l'Église a le devoir d'avoir du discernement. Parce qu'il faut du discernement. Si Dieu nous demande de prier pour avoir le don de discernement, les problèmes ne sont pas toujours les mêmes. Mais il faut prier et nous accorder pour lier ces personnes afin qu'elles ne viennent plus déranger les réunions. Il y a parfois des esprits religieux. Il y a des gens légalistes dans les églises qui, par leur légalisme, amènent une lourdeur dans l'Église. Et il faut lier ces esprits religieux. Alors pour le commun des mortels, passez-moi l'expression, les gens ne se rendent pas compte. Mais il y a des esprits religieux dans les églises, des légalistes. Il faut lier ces esprits, croyez-moi, parce qu'ils viennent déranger le peuple de Dieu. Il y a des esprits, des œuvres démoniaques dans une église. Moi je crois que lorsqu'on prêche l'évangile et lorsque des nouveaux rentrent, le diable il est à l'œuvre aussi. Pour essayer d'empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. Ça vous est jamais arrivé d'entrer dans l'église? Je vais peut-être vous choquer, mais tant pis. D'avoir des pensées impures? Ça vous est jamais arrivé? Eh bien, moi, si. Ouais. Et parce que le diable, il essaie de nous troubler. Il n'y a que moi que c'est arrivé. Hein? Des esprits méchants qui veulent imposer leurs pensées impures dans le royaume de Dieu. Croyez-moi que ça arrive. Ça peut arriver. Et nous devons lier les esprits méchants. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut prier avant les réunions. Le dimanche matin, mes frères et sœurs, moi je le sens, je le ressens. Des fois, je suis comme un aigle. Je le sais. Je sais que des gens ont prié pour moi. Et des fois, je sais. Pourtant, j'ai prié, moi, le même temps. Mais il y a des combats. Et voyez, mes frères et sœurs, je ne veux pas vous forcer, parce qu'il faut le faire de tout son cœur. Mais je crois qu'on gagnerait beaucoup si le dimanche matin, on se levait quand même un petit peu plus tôt et qu'on disait « Seigneur, tu vois les gens qui vont venir, et le meneur de chant, et le prédicateur, et les musiciens. Je ne sais pas les musiciens si vous vous préparez avant de venir, mais c'est de votre responsabilité. » J'espère que vous n'arrivez pas comme ça, la fleur au fusil, avec en jouant de la musique. L'Église doit prier. Vous entendez? Et il y a des choses à lier. Si vous les liez sur la terre, elles seront liées dans le ciel. Là où deux ou trois s'accordent. C'est pour ça que moi je soupire après qu'avant toutes les réunions, dès qu'on se retrouve quelques-uns, on se mette en prière. Et après, s'il y en a qui veulent parler, après tout, c'est pas interdit de parler. Au contraire, ça fait du bien. Mais maintenant qu'on a deux salles, moi, je crois qu'on devrait arriver que dès qu'on rentre dans l'église, il y a un esprit de prière. Vous ne croyez pas qu'on serait gagnant? Après, si on veut parler, boire le café, moi ça me va. Moi, des fois aussi, j'ai besoin d'aller parler, et même de choses et d'autres. On peut quand même non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le dimanche, avant les réunions, les jours des réunions, mais les autres jours aussi. Mais je crois que vous devriez prier pour le pasteur. Je ne dis pas ça parce que je suis pasteur, je serais comme frère dans l'église. Je vous le dirais si j'avais la liberté de prêcher ou la possibilité. Je vous dis, mais priez pour le pasteur. Parce que vous savez qu'avant d'être pasteur, je me considère d'abord comme un chrétien. Mes frères et sœurs, il y a des choses à lier. Il y a des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et il faut les lier. Et faites attention à tous ces esprits religieux, sentimentaux, à des pleurs parfois qui ont rien à voir avec de véritables repentances. Alors je vois que le retourne. Nous reviendrons sur ce sujet si le Seigneur m'y pousse. Mes frères et sœurs, prenez conscience de ces choses. En tous les cas, je répète, tout ça dans un esprit d'obéissance. Qu'est-ce qui doit être délié? Alors là, je vais peut-être en reparler dimanche parce que c'est trop grave et c'est trop sévère. Il y a des situations dans les églises qui doivent être déliées. Un exemple concret. Écoutez bien les frères en particulier. Les sœurs aussi. Mais le problème est beaucoup plus flagrant chez les frères. Je crois que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, les hommes doivent prier. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Les frères qui priaient, vous êtes d'accord? Les frères qui ne priaient pas. Mais ça ne veut pas dire que vous ne priez pas chez vous. Ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est qu'il y a des frères qui ont peur de prier et qui ont peur de témoigner. Ça, c'est un autre problème. Oui ou non? Est-ce qu'on peut avoir peur de témoigner? Ben oui, ça peut arriver. On n'est pas toujours bien disposé, ça peut arriver. Et parfois, j'ai observé, chez certains, il suffit de quelques paroles pour les exhorter. Vous dites à un frère, vous savez frère, ça serait une bonne chose que vous vous mettiez à intercéder. Vous voyez, il y a des fois des paroles d'exhortation qui suffisent à aider quelqu'un à prendre la victoire. Mais j'ai observé aussi que bien souvent, ça ne sert à rien de dire quelque chose. Absolument à rien. Et qu'il faut, je crois, que nous nous accordions pour délier ceux qui sont pris par la crainte et par la timidité. Ça paralyse. Timothée a été paralysé par la timidité et il a reçu l'ordre de ranimer la flamme pour être délivré de cet esprit de timidité. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous devrions nous lever pour servir. Moi, je suis affolé quand je vois ce qui est en train de se passer pour la rentrée en septembre. Dimanche dernier, Illico Presto m'a téléphoné, ça m'a dit « Monsieur Gou, envoyez vite un pasteur, un prédicateur et même un meneur de chant dans l'église. Il n'y a presque plus d'hommes pour servir Dieu. Envoyez-nous un pasteur et un meneur de chant. » Et on l'a fait. Moi, je crois qu'il y a des gens qui devraient se lever pour servir Dieu. Car dans l'église du Seigneur Jésus, je crois qu'il y a tous les hommes et les femmes, les serviteurs et les servantes qu'il faut pour faire l'œuvre de Dieu. Et il y a des gens qui sont liés. Écoutez bien, j'ai pesé mes mots, vous le comprendrez. Lié par le travail, est-ce que c'est bien d'avoir un travail? Mais il y a des gens qui sont accaparés que par le travail. n'y a que ça qui compte. Il y a des gens qui sont par le plaisir, le bien-être. Est-ce que c'est bien le bien-être? La détente, est-ce que c'est bien d'avoir réussi? Est-ce que vous avez du bien-être chez vous? Vous pensez qu'à ça? J'espère que non. Il y a des gens qui sont liés par les affaires familiales. La famille, la famille. Ah, moi, la famille, le week-end, c'est la famille. Le soir, c'est la famille. C'est toujours la famille. Les circonstances, tout ce que vous voulez. En ce qui concerne l'argent, c'est un sujet tellement épineux, mais là, dans le cadre, je ne peux pas me louper et me tromper. C'est pareil. Il y a des chrétiens qui sont liés par l'avarice. Et dans bien des endroits, l'œuvre de Dieu ne se fait pas à cause de l'avarice des chrétiens. Et les petites églises sont souvent en danger. Nous, on a vu des œuvres, mais où il y avait du monde. Et si chacun avait donné, même pas sa dîme, mais une part de sa dîme, les églises auraient pu avoir des pasteurs. Et c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, à cause de l'avarice, il y a des églises qui n'ont pas de pasteurs. Et le diable, il le sait tout ça. Et il faut délier les gens de l'avarice. Parce que ce n'est pas en leur expliquant qu'ils vont l'être, croyez-moi. Ben, moi, j'ai vu des gens qui avaient de l'argent, même de l'argent de côté, qui disaient, mais moi, je ne peux pas donner ma dîme. Je n'ai pas d'argent. Alors, ce n'est pas à nous de les convaincre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais lisez le prophète Malachi, ou Malachi, comme vous voudrez, et vous verrez que le ciel se ferme lorsqu'on est avare. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? Et tout ça, il faut délier. C'est pour ça. Alors, il ne faut pas le faire en plein culte. Il faut le faire peut-être en petit comité. C'est pour ça que Jésus dit, si deux ou trois s'accordent, ça tient debout, je veux dire. On ne va pas commencer à délier les cupides et les avares dans les réunions de culte. Surtout pas. Mais dans les couples à la maison. Vous savez, moi, je l'ai fait, ça. Je l'ai fait. Et à une époque où je l'ai fait, tous les mois, il y avait un monsieur, un frère, un couple. Monsieur Go, vous savez, cette semaine, ça fait des années qu'on est convertis. Mais le Seigneur nous a montré qu'il fallait qu'on donne notre dîme. Alléluia. Délié de la cupidité. Alors le problème, c'est que dans ces églises-là, l'œuvre de Dieu ne se fait pas, parce que quand même, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, qu'on le veuille ou non. Et dans bien des endroits, l'œuvre de Dieu a été stoppée, arrêtée, et même mise en sens inverse, à cause de l'avarice. Et ça, c'est une chose qu'il faut prendre au sérieux. On peut délier les cupides. Vous comprenez pourquoi dans le cadre du couple, et si vous n'êtes pas marié, d'avoir un partenaire de prière pour vous accorder ensemble. Il y a bien des choses qui doivent être déliées. On y reviendra sur cet aspect parce qu'il est trop profond. La vérité, dans bien des endroits, la vérité n'est pas proclamée. On proclame certaines bribes de vérité. On dit certains trucs, ça fait très biblique, et c'est biblique, mais toute la vérité n'est pas dite. Quand on ne parle que du paradis dans une église, on a lié la vérité. Parce qu'il faut aussi parler de l'enfer. Vous comprenez? Et il faut demander que dans les églises, la vérité soit déliée pour que les gens entendent toute la parole de Dieu. Vous entendez, mes frères et sœurs? Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons été affranchis, nous qui sommes passés des ténèbres à la lumière, nous devons comprendre ces choses. Et nous devons amener la bénédiction sur la terre. Même si nous sommes pressés de partir dans le ciel. Vous êtes pressés d'être aux noces de l'agneau? Moi, je suis pressé. Pourtant, tout va bien. Mais moi, je vous dis, moi, les noces de l'agneau, ça me va très bien. Mais voilà, le Seigneur, il sait quand est-ce qu'il doit nous appeler. En attendant, mes frères et sœurs, amenons la bénédiction sur les autres. Vous êtes d'accord? Comprenons ces choses. Vivons dans une vie d'obéissance. Que Dieu nous accorde cette grâce. Mes frères et sœurs, il faudrait que toute l'Église participe à la prière. Est-ce que c'est un exploit? Sérieusement, est-ce que c'est un exploit que sur 400 membres, il y en ait 200 qui viennent le mardi soir à 7h30? Est-ce que c'est un exploit? Moi, je dis que non. Je dis que ça serait quelque chose de facile à réaliser, de persévérer. Bien sûr, si vous avez des enfants petits, eh bien, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre qui vient. Mais moi, je crois, mes frères et sœurs, que si nous avons choisi d'être membres de cette assemblée, nous devons combattre dans cette église et aider les autres églises. Alors on le fait. Dimanche, vous allez voir à l'Assemblée Générale, « Oh mais monsieur Gouave, tout ce qu'on fait, vous n'étiez pas un peu trop sévère mardi soir ?» Mais vous ne croyez pas qu'on peut marcher de progrès en progrès? Vous ne croyez pas qu'on peut travailler de mieux en mieux? Et les frères qui sont dans la timidité? Moi, je me fais beaucoup de soucis pour les hommes. Je vous dis. Mais vraiment, vous êtes loin de vous imaginer. Parce que je sais que dans l'église, il y a des hommes qui sont exactement comme Ésaü. Quand ils vont passer devant Dieu, comme on dit ici, ça va chauffer. Ils ont perdu leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Mes frères et sœurs, je vais dire le mot, j'aime pas le dire, mais je le dis pour que vous compreniez bien. C'est vachement grave. Vous entendez? Et à cause de cela, on se prive de voir l'autorité de Dieu se déverser. On passe à côté de certaines choses. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous comprenions quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Alors je termine avec un avertissement sérieux. Nous devons être soumis à l'autorité de Dieu. Voulons-nous faire des prières d'autorité? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prédication? Est-ce que c'est biblique tout ce que je vous ai dit? C'est biblique. Mais pour cela, il faut que nous soyons soumis à Dieu. Que nous soyons soumis les uns aux autres. Que les épouses, vous soyez soumises à vos maris. Que les maris, vous aimiez vos femmes. Et que dans l'assemblée, nous soyons tous soumis aux autorités qui sont au-dessus de nous. Si vous avez un patron, que vous soyez soumis au patron, etc. Ne rentrez pas dans cette rébellion, car ce n'est pas la peine. Si vous êtes rebelle, désobéissant et tout ce que vous voudrez, ce n'est même pas la peine que vous commenciez une prière d'autorité. Ça servira strictement à rien. Vous entendez, mes frères et sœurs? À la création... Je termine, mais il faut le dire ces choses pour tous ceux qui vont réécouter, réentendre. À la création, l'homme a reçu l'autorité. Vous rappelez? Il a reçu l'autorité sur tous les animaux. Il a donné un nom à tous les animaux. À cause du péché, l'homme a perdu cette autorité. D'accord? Parce qu'il ne s'est pas soumis à la parole de Dieu. L'homme a perdu l'autorité. Et je termine avec deux exemples. Vous vous souvenez, vous le lirez, 1 Roi 13, verset 20. Il y a un homme de Dieu qui a été dévoré par un lion. Vous rappelez cette histoire? Cet homme de Dieu, il fait quelque chose qui lui a été demandé, puis il arrive chez un vieux prophète, vieux dans le sens, pas où il était âgé, mais vieux dans le sens où il n'avait plus rien. Et ce vieux prophète, il a dit quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu. Et comme il a désobéi à la parole de Dieu, sur le retour, il a été mangé par un lion. Parce qu'il a été désobéissant à la parole de Dieu. Daniel s'est toujours soumis à Dieu et s'est toujours soumis au roi, tout premier ministre qu'il était. Vous avez vu dans l'affaire de Daniel. Et quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions ne l'ont pas touché. Il représente ceux qui obéissent et que le diable ne peut pas toucher. Et cet homme de Dieu représente, je parle de ces pasteurs en prison, ça fait pitié. Pourquoi? Parce qu'il faut veiller et il faut que nous nous soumettions à l'autorité de Dieu. Daniel était innocent et Dieu n'a pas permis qu'un lion le touche. Et nous avons besoin d'être soumis à l'autorité. Dans une église, on doit se soumettre. Je ne sais pas comment vous parlez de votre patron, comment vous parlez de vos parents, les jeunes. Qu'avez vos parents? Vous devez vous soumettre. Nous devons. Moi, je dois me soumettre. Moi, vous demandez au conseil d'administration si une fois j'ai joué le rebelle dans le conseil. Je ne le ferai jamais. Parce que je sais qu'on ne peut pas avoir d'autorité si on ne se soumet pas les uns aux autres. Vous entendez, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est important pour vous? Vous voulez qu'on fasse des prières d'autorité dans l'église? Est-ce que vraiment vous aimeriez que cet aspect de la puissance de Dieu rentre dans l'église? C'est la volonté de Dieu. Mais nous devons absolument être soumis à la puissance de Dieu. Ça ne sert à rien de jeûner si on ne se soumet pas. Les pharisiens, allez, je termine avec cette pensée, c'est vrai. Je termine pour de vrai. Les pharisiens, est-ce qu'ils jeûnaient? Mais ils n'avaient pas l'autorité parce qu'ils n'étaient pas soumis à la parole de Dieu. Ils jeûnaient deux fois par semaine. Et ils n'avaient aucune autorité. Et que Dieu nous garde de tomber dans le même panneau, ce n'est pas parce qu'on va jeûner. Par contre, si le jeûne exprime notre faim, notre soif de Dieu. La prière exprime vraiment notre communion avec Dieu. Mais mes frères et sœurs, si nous voulons découvrir la prière d'autorité dans le couple, mais est-ce que vous vous rendez compte dans le couple, si on se mettait à délier tous les frères qui sont liés par la timidité, Seigneur, délivre les cupides dans l'église. Vous vous rendez compte, l'œuvre de Dieu, comment elle prospérerait partout? Parce que les gens seraient délivrés. Vous le croyez que les gens seraient délivrés? Imaginez, déjà dans l'église qui marche bien, mais imaginez si tous les frères et sœurs donnaient la dîme. On pourrait peut-être former 2-3 pasteurs de plus. On pourrait aider davantage d'églises. L'œuvre de Dieu se ferait. Tous les frères qui sont timides, s'ils étaient délivrés de la timidité, eh bien des ouvriers se lèveraient, des pasteurs se lèveraient, des anciens se lèveraient. Oui, mes frères et sœurs, si vous êtes assis, si nous sommes assis dans les lieux célestes, nous vérifierons tout ce que nous avons partagé ce soir. Que Dieu nous accorde sa grâce. Fermons les yeux et répondons simplement. Répondez à cette prédication avec un mot, avec une phrase, avec un petit pardon ou un grand pardon, j'en sais rien. Mais répondons à cette prédication. Si vous n'êtes pas soumise à votre mari, demandez-lui pardon. C'est sérieux cette affaire. Si vous n'êtes pas soumis, je dis au pasteur parce que si je n'étais pas pasteur, je vous dirais pareil. Peut-être que vous n'êtes pas soumis à votre pasteur. Peut-être que vous ne le respectez pas. À l'occurrence, c'est moi le pasteur. Mais il y a tous ceux qui écouteront la prédication. Si vous n'êtes pas soumis à votre pasteur, ne faites pas de prière d'autorité. Si vous ne vous soumettez pas les uns aux autres, si vous ne vous soumettez pas à vos parents, ne commencez même pas. Alors on va prier, simplement. Et il faut que nous méditions ces choses. Mes frères et sœurs, un chrétien peut être assis dans les lieux célestes. Alléluia. Un chrétien peut faire des prières d'autorité. Lorsqu'il s'accorde, Dieu veut que l'on soit plusieurs, deux, c'est pour ça que le couple. Et si vous êtes célibataire, prenez, avez-vous quelqu'un de soumis, d'obéissant, n'allez pas quelqu'un de rebelle, ça c'est clair, ça ne sert à rien, vous perdrez du temps. Et questionnez la personne, est-ce que tu obéis à Dieu? Ce n'est pas de l'indiscrétion, c'est de l'intelligence. Et vous verrez, Dieu vous aidera, Dieu libérera sa puissance, son onction, ses provisions. Alors, est-ce que je peux faire un appel? Est-ce que je peux demander à quelqu'un de se lever et de dire, Seigneur, est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour lui? Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour lui? S'il vous plaît, veillez à vos portables, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui? Quelqu'un qui dit, mais moi je veux la victoire, j'en ai assez d'être timide, d'être cupide, d'être craintif, d'être paralysé, d'avoir peur de témoigner, j'ai peur de prier avec des chrétiens dans l'église, en fait c'est clair que ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un veut la victoire? Levez-vous à votre place, levez-vous. On va prier. Écoutez mes frères et sœurs, l'église doit se réveiller. On le chante, pourquoi nous ne mettrions pas à le vivre? Et je m'adresse à tous les chrétiens qui sont rebelles. Tous les chrétiens qui sont tout le temps en train de râler, de critiquer, de se plaindre, vous qui n'êtes pas soumis ou soumises, prenez la victoire et approchez-vous du trône. Et nous verrons la délivrance. Je vous le dis, nous le verrons, mes frères et sœurs. On va prier. Peut-être que ceux qui se sont levés voudraient qu'on prie pour eux. Eh bien, avancez-vous. On reste tous les yeux fermés. C'est quelque chose d'important, parce que quelqu'un peut réclamer une victoire, une délivrance, une guérison, une onction, une puissance, peut-être une délivrance quelconque. Si vous ressentez le besoin de vous avancer, avancez-vous. Et vous qui êtes assis, venez ou priez, mais ne passons pas à côté, ne passons pas à côté. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un adversaire qui a été vaincu au calvaire, et pourtant il continue à essayer de nous gagner. Alors, avancez-vous, venez sur le devant. Les anciens vont prier pour vous. Croyez à la puissance du Saint-Esprit. Croyez à l'autorité de Jésus qui est là pour vous bénir et pour vous délivrer. S'il vous plaît, croyez à la puissance du Saint-Esprit. Croyez, vous qui êtes assis, invoquez la grâce de Dieu sur ces bien-aimés qui s'avancent. Et Dieu délivrera, croyez-moi. Oh, merci Seigneur Jésus.